Dans la vie, on rencontre plein de gens différents, n'est-ce pas? Mais on n'accueille pas tous ces gens de la même façon quand on les rencontre. Quand je retrouve Suzanne après une semaine d'absence, je ne me comporte pas avec elle de la même façon que si je rencontrais Gérard Collomb à un dîner officiel. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour où j'ai fait connaissance avec Jonah, je n'étais sûrement pas dans les mêmes dispositions que le jour où j'ai discuté avec un meurtrier dans la prison Saint-Paul. Peut-être que c'était pas loin, je ne sais pas. En fait, ce que représentent à nos yeux les personnes que nous rencontrons, ce qu'elles représentent à nos yeux, conditionne totalement la façon dont nous les accueillons et dont nous nous comportons avec elles. Vendredi dernier, le président François Hollande, par exemple, a rendu visite au pape François. Est-ce que vous avez vu quelques images de cette rencontre? Et surtout le contraste entre l'accueil réservé par le pape à François Hollande, donc poignée de main ferme, regard qui tue, et celui réservé au père Georges Vandenbosch, qui jusqu'à récemment était retenu en otage par des islamistes au Cameroun. Et dans ce cas, c'était plutôt un sourire, une accolade et une bise affectueuse. Contraste entre les deux accueils. Vous voyez ce que représente à nos yeux les personnes que nous rencontrons, conditionne la façon dont nous les accueillons et dont nous nous comportons avec elles. Alors, comment accueillir Jésus? Comment accueillir Jésus? Eh bien, tout dépend de ce qu'il représente à vos yeux, n'est-ce pas? Et c'est exactement la question qui préoccupe l'auteur du texte qu'on va lire, l'apôtre Matthieu, dans ce chapitre qui va faire l'objet de notre attention cet après-midi. Je vous citais un sondage la semaine dernière, un sondage qui révèle qu'un Français sur quatre est certain que Jésus n'a jamais existé. Un sur quatre. Et il y avait une autre question dans ce sondage, mais je ne l'ai pas abordée la semaine dernière. Et cette question, c'était la suivante. Que Jésus ait existé ou non, qu'est-ce qu'il représente pour vous? 10% ont répondu un contestataire, 12% un exemple d'amour, 17% un prophète, 17% encore un sage, 20% un guide, 27% le fils de Dieu et 30% un homme comme les autres. Et 10% ont répondu rien de cela ou ne se sont pas prononcés. Je sais, Christophe, ça fait plus que 100% le total. Tu étais en train de calculer. Je sais, c'est parce que plusieurs réponses étaient possibles. Et qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question? Peut-être que vous auriez répondu le Fils de Dieu, puisque vous êtes tous de bons chrétiens, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, que représente le Fils de Dieu pour vous? Est-ce que le Fils de Dieu, c'est un genre de génie qui sort d'une petite lampe pour réaliser vos vœux? Est-ce que le Fils de Dieu, c'est un genre de coach personnel qui vous incite à faire du sport et à faire le bien? Est-ce que c'est un genre de philosophe ancien dont la pensée est un peu ésotérique et mystérieuse? Est-ce que le Fils de Dieu, c'est un genre de superstar hyper sympathique et souriante, un peu bling-bling, qui aime tout le monde et qui prépare une méga fête pour la fin des temps? Est-ce que le Fils de Dieu, pour vous, c'est un genre de hippie, baba cool, pacifiste, végétarien, bien sûr, qui a des conseils santé à vous prodiguer pour que votre vie soit un peu plus zen? Évidemment, ce sont des caricatures. Mais peut-être que votre Jésus ressemble un petit peu à l'une ou l'autre de ces catégories. Eh bien, si la façon dont nous accueillons quelqu'un et dont nous nous comportons avec cette personne est conditionnée par ce qu'elle représente à nos yeux, eh bien, Matthieu, dans ce texte qu'on va lire, veut qu'on associe Jésus à un concept redoutable et vraiment bouleversant, celui de la venue du royaume des cieux. La venue du royaume des cieux. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et pour l'instant, retenons simplement la leçon qu'on va tirer de ce texte, et qui est la suivante. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Devant Jésus, on s'incline humblement. Devant Jésus, on s'incline humblement. Alors lisons le texte. Matthieu chapitre 3. On va lire tout le chapitre. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée, et il disait, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Et comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Alors Jésus vint de la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Prions avant de continuer. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Et maintenant, s'il te plaît, applique-la à notre vie. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui et à le retenir et à nous laisser transformer par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Devant Jésus, on s'incline humblement. Et la première chose que Matthieu veut nous faire comprendre à travers ce texte, à travers ce chapitre 3, c'est premièrement, versets 1 à 6, qu'il y a une corrélation entre la venue de Jésus et la venue du royaume des cieux, et que cette corrélation devrait énormément nous préoccuper. Il y a une corrélation entre la venue de Jésus et la venue du royaume des cieux, et cette corrélation devrait énormément nous préoccuper. Donc, quand on arrive à la fin du chapitre précédent, à la fin du chapitre 2, si vous étiez là la semaine dernière, ça va vous rappeler quelque chose. Et bien, on a compris certaines choses à ce moment-là du récit. On a compris que Jésus était le Messie dont la venue avait été annoncée depuis des siècles. On a compris aussi que Jésus avait, en tant que Messie, des ennemis, au premier rang desquels se trouvent les autorités juives. Vous vous souvenez de Hérode et de ce qu'il a essayé de faire à Jésus? D'accord. Et maintenant, on fait un saut en avant dans le temps, hein, entre la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3. Il y a plusieurs dizaines d'années qui se sont écoulées. On fait un saut dans le temps. Et Matthieu nous parle d'un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, du nom de Jean-Baptiste. Et il nous explique, Matthieu, que ce Jean-Baptiste, c'est le prophète qui devait, conformément aux prophéties de l'Ancien Testament, qui devait ouvrir la voie au Messie. Jean-Baptiste, donc, qu'est-ce qu'il fait dans ce texte? Il est en train de préparer la venue de Jésus. Il prépare l'apparition publique, si vous voulez, et le début du ministère public de Jésus, qui jusqu'alors a grandi à Nazareth avec vraisemblablement sa mère et son père Joseph, son père adoptif. Et il est là, Jean-Baptiste, à prêcher dans le désert de Judée, nous dit le texte, et, semble-t-il, de nombreuses personnes, hein, d'après le verset 5, de nombreuses personnes de cette région viennent le voir dans le désert. Mais ce sur quoi Matthieu veut attirer notre attention, c'est sur la substance de son message. La substance de son message. Et quelle est-elle? La substance de son message, on l'a résumé en une phrase au verset 2. Jean-Baptiste disait, deux points, ouvrez les guillemets, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà le message de Jean-Baptiste résumé en une phrase. À ce stade du récit, si on avait lu depuis le début, hein, du chapitre 1, on s'attend à ce moment du récit à découvrir l'histoire de Jésus, sa vie, son enseignement. On a compris que Jésus était le personnage principal de ce livre, qu'est l'Évangile selon Matthieu. On s'attend à découvrir l'œuvre de ce personnage, de ce Messie Jésus. Mais soudain, Matthieu fait cette corrélation qu'on n'avait pas faite jusqu'alors dans le texte entre l'œuvre de Jésus et la venue du royaume des cieux. Et dans le récit, c'est vraiment, on ne le mesure pas trop nous aujourd'hui, mais c'est vraiment une annonce choc. C'est une annonce choc. Cette expression évoque toute l'espérance de l'Ancien Testament. Le royaume des cieux qui vient, c'est-à-dire la venue sur terre du règne de Dieu, un règne suprême, éternel, bienveillant, juste, un règne victorieux sur le mal, un règne établi par le Messie en faveur de son peuple et pour la gloire de Dieu. Et ce règne vient, il est proche, dit Jean-Baptiste. C'est une annonce choc. Jésus est sur le point de commencer sa mission, et le texte dit, au moment où Jésus va commencer sa mission, le texte dit, le royaume des cieux est proche, corrélation entre la venue de Jésus et la venue du royaume des cieux. C'est énorme. Mais quelle conclusion Jean-Baptiste en tire-t-il naturellement? Repentez-vous. C'est curieux quand même. Parce que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc on s'attendrait peut-être à ce que Jean-Baptiste prêche, réjouissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Non. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est clair donc, d'après Matthieu, il y a une corrélation entre la venue de Jésus et la venue du royaume des cieux, et cette corrélation devrait énormément nous préoccuper, comme elle a préoccupé les foules qui venaient auprès de Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés et recevoir le baptême en guise de démonstration de leur attachement aux promesses de Dieu. À l'annonce de la venue du royaume des cieux, en entendant ce message, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, eh bien les foules se rendent compte qu'elles sont indignes de la venue du royaume des cieux. Elles sont indignes de cette venue. Les gens prennent conscience qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à cause de leurs péchés. Et donc ils accourent de toute la région vers Jean-Baptiste pour se repentir. Et en étant baptisés dans le Jourdain, c'est comme si symboliquement ils traversaient le Jourdain une deuxième fois comme leur père l'avait fait pour rentrer en terre promise à l'origine. Et bien eux, de nouveau, ils retraversent le Jourdain symboliquement pour montrer leur désir de prendre un nouveau départ avec Dieu. Si la venue de Jésus correspond vraiment à la venue du royaume des cieux, mes amis, ça devrait vraiment nous préoccuper. Franchement, ça devrait vraiment nous préoccuper, nous aussi. Parce que nous non plus, nous ne sommes pas prêts pour cette venue. En raison de l'état de notre vie. Il y a un cauchemar que je fais de manière assez récurrente. Et je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Peut-être pas exactement comme moi, dans les mêmes, avec les mêmes détails que moi, mais je suis sûr que vous avez fait ce genre de cauchemar. C'est un cauchemar où je suis en retard. Je suis en retard pour l'école, où je suis en retard pour le culte. Et je quitte précipitamment ma maison et je me retrouve devant les gens. À devoir faire un exposé à l'école ou peut-être à devoir faire ma prédication à l'église et je me rends compte quelques minutes avant de devoir prendre la parole que j'ai oublié de mettre mon pantalon. Et vous savez, dans le rêve, à ce moment-là, il y a un genre de panique qui vous saisit et on cherche désespérément une solution, mais comme on n'en trouve pas, c'est pas possible, c'est trop tard, on a quitté la maison, c'est trop tard. On se réveille alors en sueur, plutôt rassuré que ce n'était qu'un mauvais rêve. Vous savez, dans la vraie vie, il y a des situations un peu similaires parfois. Je me souviens de l'appartement où on habitait avant avec Suzanne et les enfants. On était locataires. Et un jour, comme tout locataire qui quitte son appartement parce qu'il déménage, et bien un jour j'ai dû rencontrer les propriétaires pour faire l'état des lieux de sortie de l'appartement. Sauf que le jour venu, quelques heures avant le rendez-vous, et bien on n'avait toujours pas fini de nettoyer l'appartement. Ni même de le vider de toutes nos affaires. Les minutes passaient, tic-tac, tic-tac, et la panique augmentait parce que la venue des propriétaires était imminente, elle était proche. Mais moi, je n'étais pas prêt. Et l'annonce de la venue du royaume des cieux doit produire à peu près le même effet, en pire, sur nous. Jésus est venu établir le royaume de Dieu. Génial, sauf que notre vie n'est pas en état d'accueillir le royaume de Dieu. Elle n'est pas en état d'accueillir le royaume de Dieu, elle n'est pas en état non plus d'être accueillie dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est un point très important pour Matthieu à ce stade de son récit. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance à sous-estimer ce point dans notre vie personnelle, même dans notre vie d'église? Dans certains milieux, on entend parfois un discours qui donne l'impression que Jésus est un super pote, quelqu'un qui ne nous fait jamais de reproches, mais qui est là pour nous soutenir, pour nous faire du bien, pour nous aider à réaliser tout notre potentiel. Alors, ce n'est pas entièrement faux. Mais pour Matthieu, devant Jésus, surtout, on s'incline humblement. On s'incline humblement. Parce qu'il y a une corrélation, vous voyez, entre sa venue et la venue du royaume des cieux. Et cette corrélation devrait énormément nous préoccuper. Donc la venue du royaume des cieux, premièrement, appelle la repentance. D'autant plus que, deuxièmement, la venue du royaume des cieux annonce un jugement. En effet, la deuxième chose que Matthieu veut nous faire comprendre à travers ce chapitre, c'est que Jésus compte expulser de son royaume tout péché, et particulièrement la religiosité hypocrite qui suscite un faux sentiment de sécurité. Par conséquent, nous devons être très attentifs à l'état de notre cœur. Donc dans le texte, à partir de versets 7 à 12, on a des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire, ce sont des noms qui désignent deux courants au sein du judaïsme à cette époque, des pharisiens et des sadducéens qui viennent voir Jean-Baptiste pour être baptisés. C'est dire que l'annonce de la venue du royaume des cieux était préoccupante, parce que même eux, ils viennent se faire baptiser, vous voyez? Mais là, Jean-Baptiste va dénoncer leur hypocrisie. Il fait comprendre ensuite à ses interlocuteurs, et c'est assez long dans le texte, que la mission de Jésus va consister notamment à faire le tri dans son royaume et à le nettoyer. Tout à l'heure, Jonas nous parlait du Dieu soi-disant sanguinaire de l'Ancien Testament qui faisait des nettoyages ethniques. Et on a vu que ça, c'était pas du tout le cas. Et ici, c'est pas non plus un nettoyage ethnique, c'est un nettoyage éthique. Il fallait que je le place celui-là. Alors, il y a énormément de métaphores dans ces quelques versets, hein, 7 à 12. Les pharisiens et les sadducéens sont d'abord appelés des vipères, c'est une métaphore bien sûr. C'est un jugement sur l'état de leur cœur, tout simplement. Ensuite, Dieu, il est dit, peut susciter des enfants à Abraham à partir de pierres. Encore une fois, une métaphore, ce qui veut dire tout simplement que n'est pas fils du royaume qui veut, mais seulement qui Dieu veut. D'accord? Ensuite, on apprend qu'on va commencer à couper des arbres à la racine, encore une métaphore, qui veut dire que même si on est convaincu d'être un sujet éminent du royaume de Dieu, un arbre bien planté, en réalité, si on ne porte pas les bons fruits, c'est qu'on se fait des illusions et on sera coupé comme un arbre et jeté au feu. On apprend ensuite que Jésus va baptiser d'Esprit Saint et de feu. La référence au baptême est une métaphore. Le baptême de Jean est employé ici comme une image de ce que Jésus va faire, mais lui, spirituellement, par l'Esprit et le feu. C'est-à-dire que c'est Jésus qui va, par l'Esprit Saint et le feu, rendre les hommes dignes de son royaume. Ensuite, encore une métaphore, parce qu'on apprend que le moissonneur, qui représente Jésus ici, va faire le tri dans sa récolte, c'est-à-dire qu'un jugement est réservé à ceux qui n'appartiennent pas au royaume. On va faire le tri, parce que quand on fait la récolte, il y a du bon grain, il y a de l'ivraie, il y a de la paille, et Jésus va faire le tri entre les deux. Tout cela pourquoi? Toutes ces métaphores pourquoi? Pour nous faire comprendre que Jésus compte exercer un jugement. Et qu'à la lumière de ce jugement, les hypocrites sont particulièrement en danger. Jésus va faire le tri dans son royaume. Il va faire un nettoyage éthique de son royaume. L'hypocrisie consiste en quoi? Dans ce texte, l'hypocrisie consiste à faire les bons gestes, à dire les bonnes paroles, tout en ayant les mauvaises pensées. Faire les bons gestes, dire les bonnes paroles, mais tout en ayant les mauvaises pensées. Les pharisiens et les sadducéens sont hypocrites parce qu'ils viennent au baptême, bon geste, bonne parole, tout en refusant intérieurement le sens du baptême. Le baptême les oblige à la repentance, mais intérieurement et délibérément, en venant même au baptême, ils sont déjà en train de rejeter cette obligation. Ils simulent la piété, mais Jean-Baptiste dénonce leur hypocrisie parce que ces gens-là, dit-il, ne produisent pas les fruits de la repentance. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce que Matthieu nous fait comprendre ici, c'est que la repentance, la vraie, est si radicale qu'on ne peut pas la simuler. La repentance, la vraie, est si radicale qu'on ne peut pas la simuler. Elle produit des fruits inimitables. Quant à l'hypocrisie, eh bien le jugement de Dieu la révélera, d'après Jean-Baptiste, d'après son discours ici. Imaginez un trafiquant de drogue qui descend d'un avion en provenance de la Colombie, l'estomac rempli de petits sachets de drogue qu'il a avalés pour pouvoir les introduire dans le pays. Et voilà qu'il doit passer la douane. Et le douanier lui demande « Bonjour, vous avez de la drogue sur vous ?»«
Non. »
« Vous vous droguez ?»«
Non. » »«
Vous approuvez les gens qui se droguent ?»«
Non. » »«
Vous a-t-on déjà demandé de transporter de la drogue ?»«
Non. » »«
Avant d'effectuer ce voyage, avez-vous avalé des sachets de drogue pour les cacher dans votre estomac ?»«
Non. » »«
Bien, je vous félicite. Maintenant, déshabillez-vous et mettez-vous là, on va faire une radio de votre estomac. » Et vous voyez, le trafiquant de drogue dans cette histoire est un parfait hypocrite. Il fait les bons gestes, il dit les bonnes paroles, mais ce qu'il a à l'intérieur le trahit. Et la radio qu'il doit subir, c'est une image ici du jugement de Dieu qui sonde les cœurs et qui voit à l'intérieur de nous. Imaginez maintenant que vous participiez à un concours de piété. C'est une émission nouvelle que j'ai inventée, qui s'appelle pas La Nouvelle Star, ça s'appelle La Nouvelle Star de la Piété, d'accord ? Et on vous fait monter sur l'estrade devant tout le monde, d'accord ? Vous êtes filmé en direct, et on dit aux gens, aux téléspectateurs, qu'ils vont devoir voter plutôt rouge ou bleu, ou vert, je ne sais plus, enfin rouge c'est pas bien et bleu c'est bien, pour dire s'ils pensent que vous appartenez au nom ou non au royaume de Dieu, au royaume de Jésus. D'accord ? Celui-là, il passe pas. D'accord ? Vous voyez ? Vous savez, la plupart d'entre nous, on s'en sortirait pas mal, a priori. Parce qu'on a tous ici, plus ou moins, une bonne réputation. On dit pas des gros mots. Notre vie n'est pas notoirement mauvaise ou scandaleuse. On est capable de citer quelques versets bibliques par cœur. On va à l'église, bien sûr. On va à la réunion du jeudi soir, étudier la Bible, etc. Mais maintenant, imaginez que juste avant le vote du public, un écran géant s'allume. Et que sur cet écran sont projetées toutes nos pensées secrètes et nos motivations profondes. Quel serait le verdict ? Encore une fois, c'est une image du jugement que Jésus compte exercer. Il va révéler l'hypocrisie et juger les hypocrites, c'est-à-dire tous ceux qui font les bons gestes, qui disent les bonnes paroles tout en ayant les mauvaises pensées et qui n'ont pas les bonnes pensées. C'est-à-dire tous ceux qui entretiennent un faux sentiment de sécurité sur la base de leur étiquette religieuse peut-être, ou sur la base de leur pratique religieuse, ou peut-être sur la base d'autre chose, mais en fin de compte, sur la base, en tout cas, de leur propre mérite. Et les hypocrites sont particulièrement en danger. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un pied dans le royaume, mais en fin de compte, ils en seront retranchés s'ils ne produisent pas les fruits de la repentance en raison d'une repentance authentique. À nous donc aujourd'hui d'être attentifs à tout ce qui peut nourrir chez nous-mêmes ce faux sentiment de sécurité et produire du coup cette hypocrisie dans notre propre vie, dans notre propre piété, dans notre propre relation à Dieu et aux autres. Quel est donc, à la place de cela, quel est le fruit de la repentance ? C'est avant tout un cœur brisé, Comme le dit Jésus un peu plus tard, en introduction à son fameux discours, son fameux sermon sur la montagne, qui est vraiment le sermon par excellence sur la question du royaume des cieux. Et il dit quoi ? Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est l'introduction de sa prédication. « Heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont humbles, qui ont conscience de leur péché, qui se frappent la poitrine. » Devant Jésus, donc, on s'incline humblement parce qu'il compte expulser de son royaume tout péché, et particulièrement la religiosité hypocrite qui suscite ce faux sentiment de sécurité. la venue du royaume des cieux, voyez, annonce un jugement. Elle appelle la repentance, la venue du royaume des cieux, et elle annonce un jugement. Mais troisièmement, et c'est là que les choses deviennent un peu plus réjouissantes, la venue du royaume des cieux amène le médiateur. La venue du royaume des cieux amène le médiateur. En effet, la troisième et dernière chose que Matthieu veut nous faire comprendre dans ce texte, à travers ce chapitre 3 de son évangile, c'est que Jésus se présente comme un secours idéal pour nous, car il est un intermédiaire idéal entre nous et Dieu. Jésus se présente comme un secours idéal pour nous, parce qu'il est un intermédiaire idéal entre nous et Dieu. Donc arrivé au verset 12 de ce chapitre, franchement, on est censé un petit peu trembler. On est censé un petit peu trembler. On est censé se faire du souci. On sait que Jésus arrive. Sa venue coïncide avec la venue du royaume des cieux. Il arrive et il va exercer un jugement, son jugement. Il va expulser les hypocrites de son royaume. Il va expulser tous ceux qui ne produisent pas les bons fruits de la repentance. Et soudain, Jésus apparaît dans le récit, verset 13. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à être baptisé. Bizarre, non? Pour celui qui va juger son peuple. Il arrive et il demande le baptême. Cet acte de Jésus ici, dans le fil du récit, tranche complètement avec la présentation qui vient d'être faite de lui. Et Jean-Baptiste, d'ailleurs, en a conscience. Hein. Il en a conscience. Je me demande si d'ailleurs il se dit « Mince, qu'est-ce que j'ai dit? Ils vont pas me croire après ça. » Vous voyez? Et voilà, c'est lui, c'est Jésus. Comment ça? Il faut que je le baptise? Mais c'est lui qui vient juger son peuple. En réalité, cet événement est extrêmement significatif et en fait apporte une réponse parfaite à la problématique qui a été soulevée par la prédication de Jean-Baptiste. En se faisant baptiser, Jésus dit qu'il veut accomplir toute justice, verset 15, c'est ce qu'il dit, c'est l'expression qu'il emploie. C'est-à-dire en fait s'identifier pleinement au peuple de Dieu et être obéissant à Dieu comme s'il était le peuple. Vous voyez? Jusqu'à accomplir lui aussi les rites de l'Alliance. Les rites qui sont propres à la relation entre Dieu et son peuple. D'ailleurs, il y a là un indice dans le baptême de Jésus, un indice du fait que le baptême n'est pas à proprement parler le signe de la repentance du pécheur, puisque Jésus ne pourrait pas recevoir ce baptême-là, mais en fait le signe de la promesse de Dieu à son peuple. Mais je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, le baptême de Jésus constitue aussi, en même temps, l'occasion pour Jésus d'être authentifié comme fils de Dieu. Parce que vous avez vu ce qui se passe juste après son baptême. Il y a une manifestation exceptionnelle, extraordinaire, de la Sainte Trinité. Où le Père parle du ciel, l'Esprit-Saint descend comme une colombe et le Fils est là, authentifié par le Père Céleste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et la conclusion de ce chapitre, la moralité quelque part, c'est que Jésus est l'envoyé idéal pour établir le royaume des cieux sur la terre, puisqu'il est à la fois pleinement homme, il est pleinement de la terre, quelque part, et en même temps, il est pleinement des cieux, il est pleinement Dieu en tant que fils de Dieu. Est-ce que vous avez noté le parallèle entre le verset 2, le royaume des cieux est proche, verset 17, une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Cet épisode du baptême de Jésus atteste donc la double nature de Jésus, à la fois homme, pleinement homme, et Dieu, pleinement Dieu. Pourquoi cette double nature fait-elle de Jésus l'intermédiaire idéal ou le médiateur idéal pour nous? Eh bien, imaginez que vous souhaitiez faire un voyage en Écosse. Le problème, et je sais que c'est le cas de plusieurs d'entre vous, vous aimeriez beaucoup aller en Écosse, je vous comprends. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas l'Écosse. Vous ne parlez pas la langue écossaise. Vous ne connaissez pas la géographie de l'Écosse. Vous avez un peu peur des coutumes locales, de la nourriture. Vous ne connaissez pas du tout la culture écossaise. Et donc, ce n'est pas un endroit où vous avez naturellement votre place. Qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ce voyage sereinement? C'est moi qu'il vous faut pour faire ce voyage sereinement. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que moi, j'ai la double nature, française et écossaise. Pleinement français, pleinement écossais. C'est l'union hypostatique des deux nature, vous voyez, c'est moi dont vous avez besoin. Je suis idéalement placé. Pourquoi ? Pour faire quoi ? Pour être l'intermédiaire entre vous et l'Écosse. Non mais c'est sérieux ce que je dis. Écoutez bien, je peux à la fois pleinement vous comprendre et pleinement comprendre l'Écosse. Je peux vous montrer le chemin, je peux vous expliquer les traditions, je peux interpréter la culture et inversement, je peux... ça c'est une erreur. Oui, je ne suis pas si qualifié que ça. Je peux vous présenter l'Écosse et en même temps vous présenter à l'Écosse. Vous avez compris, je peux vous présenter l'Écosse et en même temps vous présenter à l'Écosse. C'est moi qui peux vous faire une place là-bas. Mais avec Jésus, c'est encore mieux. Il est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Et donc, il est idéalement placé pour nous faire une place dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Par nous-mêmes, nous n'avons pas notre place dans ce royaume. Hein, la prédication de Jean-Baptiste nous a bien fait comprendre ce point. Il nous fallait donc que quelqu'un vienne de là pour être notre intermédiaire, quelqu'un qui vienne de là et qui en même temps s'identifie pleinement à nous. Donc pas un ange, vous voyez, un ange ça ne marcherait pas, un ange. Quelqu'un qui soit pleinement homme et pleinement Dieu. Et cette identification de Jésus à notre situation, il est venu connaître notre situation, notre condition humaine, il est venu au plus proche de nous, il s'est pleinement identifié à nous. Ça a commencé avec son incarnation, quand il a été conçu dans le sein de Marie. Ça s'est poursuivi ici dans ce texte avec son baptême, ensuite avec sa tentation, dont l'épisode vient juste après dans le texte, au chapitre 4. Et bien sûr, cette identification à notre situation va culminer ensuite, un peu plus tard, avec ses souffrances et sa mort. En fait, sur la croix où Jésus est mort, il s'est tellement identifié à nous qu'il est allé jusqu'à prendre notre place sous le châtiment de Dieu. Alors que lui, il était innocent. Et c'était la seule différence entre lui et nous. C'est que lui n'avait jamais péché. Il a payé le prix de nos péchés pour nous en délivrer. Il a offert un sacrifice, sa vie en sacrifice. Et c'était un sacrifice suffisant, satisfaisant au regard de la justice de Dieu. Et du coup, il est ressuscité le troisième jour en vainqueur. Et il s'est alors assis sur son trône, après son ascension, il s'est assis sur son trône suprême au-dessus de toute la création, les choses visibles, les choses invisibles. Le royaume des cieux est donc venu, mes amis, et nous pouvons en faire partie de ce royaume. Par la foi en Jésus. Nous n'y avons pas notre place par nous-mêmes. Mais Jésus se présente comme un secours idéal pour nous. Car il est un intermédiaire idéal entre nous et Dieu, idéalement placé pour nous présenter à Dieu et pour nous présenter Dieu, ou inversement, pour nous présenter Dieu et pour nous présenter à Dieu. La leçon de ce texte, donc, devant Jésus, on s'incline humblement. Devant Jésus, on s'incline humblement. Il y a premièrement une corrélation entre sa venue et la venue du royaume des cieux, et cette corrélation devrait énormément nous préoccuper. Pourquoi ? Eh bien, parce que deuxièmement, il compte expulser de son royaume tout péché, et particulièrement cette religiosité hypocrite qui suscite un faux sentiment de sécurité. À nous donc d'être attentifs, très attentifs à l'état de notre cœur qui devrait en fait être brisé sous l'effet de cette prise de conscience que nous sommes indignes du royaume des cieux. Mais heureusement, et troisièmement, Jésus se présente comme un secours idéal pour nous parce qu'il est un intermédiaire idéal. Il est l'intermédiaire idéal entre nous et Dieu. Alors comme je le disais en introduction, dans la vie, on rencontre plein de gens différents, mais on n'accueille pas tous ces gens de la même façon quand on les rencontre. Ce que ces personnes représentent à nos yeux conditionne totalement la façon dont nous les accueillons et la façon dont nous nous comportons avec elles. Et Matthieu, ici, dans ce texte, a voulu qu'on associe Jésus à ce concept redoutable et bouleversant qu'est la venue du royaume des cieux. Si c'est cela que Jésus représente à vos yeux ce soir, alors devant lui, vous ne pourrez que vous incliner humblement. Amen.